Aujourd'hui, la masterclass de Costa Gavras avec Géraldine Mosna-Savoie.
Bienvenue à tous, bonjour à vous, Costa Gavras. Merci d'être présent ici dans le studio 106 de la Maison de la Radio pour cette masterclass de France Culture où l'idée est en quelque sorte de rentrer dans votre tête, alors il ne faut pas prendre peur. L'idée est seulement de découvrir comment vous construisez une œuvre, ce qui se joue dans sa fabrication, de son idée à son achèvement. Et ça n'est peut-être pas très éloigné de ce que vous faites à l'écran, Costa Gavras, puisque je le rappelle, vous êtes président de la Cinémathèque, vous avez réalisé depuis les années 60 une vingtaine de films, on peut en citer quelques-uns, Z, L'Aveu, Missing, Amen, plus récemment Le Capital. Et la plupart, il me semble, la plupart de ces films a l'ambition de faire la lumière sur ce que l'on ne voit pas. Chacun de vos films nous fait entrer dans la tête d'individus en prise avec le pouvoir, qui y participent, qui le subissent ou au contraire qui font le pouvoir.
Oui, bonjour. Eh bien, vous commencez vraiment directement.
Je veux rentrer dans votre tête, c'est l'idée.
Non, si vous voulez, moi, quand j'étais étudiant à l'école du cinéma, après avoir été étudiant à la Sorbonne, j'ai lu, on les voyait beaucoup à cette époque, les films de Bergman. Et j'ai lu, dans une de ses interviews, il disait que, pour moi, le cinéma, c'est d'entretenir, dans le sens le plus large du mot, c'est-à-dire tenir le spectateur fermement, éventuellement, le faire réfléchir. Voilà. Et je pense que c'est le rôle de l'art d'une manière générale et plus particulièrement le rôle du cinéma parce que le cinéma, c'est l'art le plus populaire. C'est l'art le plus populaire depuis ses débuts. Vous savez, la première projection publique faite par les frères Lumière, 17 personnes. Deuxième, 300 et depuis, des milliards de personnes sont été au cinéma. Voilà. Donc, le rôle du cinéma est multiple. Je ne veux pas lui donner une direction, d'ailleurs. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais personnellement, je pense que le rôle du cinéma, c'est l'idée de Bergman qui a fait des très, très grands films.
Donc, l'idée de réfléchir, Costa Gavras, est-ce que c'est ça, en fait, qui mène votre manière de faire le cinéma ou de construire un film en vous disant « je veux susciter cette réflexion-là »
Non, d'entretenir.
D'entretenir la réflexion.
D'entretenir dans le sens le plus large du terme. Et je pense que le cinéma, ça n'est pas une école, c'est pas une université, c'est pas pour faire des discours politiques non plus, ce n'est pas pour donner des leçons non plus, c'est pour entretenir, c'est-à-dire avoir des sentiments. Et avec ces sentiments-là, le spectateur fait ce qu'il veut, ou il ne fait rien du tout, ça dépend de lui. Parce que finalement, nous faisons du spectacle, n'est-ce pas? Et ça, j'insiste beaucoup sur ce, nous faisons du spectacle. Nous ne sommes pas une université, nous ne sommes pas non plus une religion, non, rien de tout cela.
Ni une idéologie?
Non, l'idéologie, ça c'est difficile, parce que on rentre dans un, et c'est votre spécialité, on rentre dans un autre sujet. C'est une idéologie, c'est, il faut parler au point de vue philosophie, alors qu'est-ce que c'est qu'une idéologie? Je pense qu'une idéologie, une société ne peut pas vivre sans idéologie. On a parlé beaucoup à un moment donné, des idéologies mortes. Donc, nous serions en train de vivre dans une société d'idéologies mortes. Non, les anciens Grecs disaient une chose très juste. Ils disaient les idéologies naissent, grandissent et périssent. Voilà. Et puis, une autre idéologie les remplace. Voilà, c'est ça le sens, à mon avis, d'idéologie.
Je vous pose la question, Costa Gavras, parce qu'on parle beaucoup de votre cinéma comme d'un cinéma politique engagé, militant. Vous abordez le fascisme, le totalitarisme, le racisme, le capitalisme. C'est par exemple la dictature des colonels en Grèce qui a pu inspirer Z, le monde de la finance qu'on retrouve abordé dans le couperet, le capital, les coups d'État, la dictature en Amérique latine. Est-ce que vous avez l'impression, vous, de faire un cinéma politique? Et qu'est-ce que c'est justement un cinéma politique qui ne serait pas un discours politique?
Non, c'est ça. On a dit beaucoup que je faisais du cinéma politique au point que les gens, quand ils me voient, ils pensent que tous les matins, je me réveille en me disant qu'est-ce que je vais faire comme film politique. J'ai fait d'ailleurs un DVD, un coffret dans lequel je fais un DVD, une interview des 3 heures, et je vais écrire un livre aussi, je suis en train de le finir, pour expliquer comment naissent les films, comment naît chaque film. Et on ne se dit pas, je veux faire des films. Si, il y a des gens qui disent je veux faire des films de comédie musicale. Je comprends très bien, parce qu'ils aiment la musique, les comédies musicales. Il y a eu un Américain en Amérique d'extraordinaire. Il y a eu le jeune metteur en scène qui a fait La La Land dernièrement. Son nom m'échappe pour le moment, mais c'est un jeune homme que j'ai rencontré qui est passionné par la musique. Son premier film, c'était aussi un film sur le jazz, sur la musique. On comprend ça. Mais moi, je pense que j'agis selon des sentiments du moment. C'est-à-dire comment on est un film. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me touche profondément pour des raisons X ou Y et j'essaye de faire un film. Et j'essaye de trouver l'histoire ou d'écrire l'histoire. Parfois, j'ai réussi à faire l'histoire et faire le film. Et parfois, je n'ai réussi pas. J'abandonne le scénario. Ou alors, il m'est arrivé aussi d'avoir fini le scénario avec un collaborateur scénariste. Et puis, on n'a pas trouvé l'argent pour faire le film. Et on n'a pas fait le film, on est passé à autre chose. Voilà.
Alors, comment vient cette idée?
Alors, vous avez dit...
L'idée ne vous tombe pas dessus le matin, ou si vous ne la cherchez pas, vous ne vous dites pas en regardant les journaux, bon, là, j'ai envie de faire un film sur ce sujet-là. Quel est le sujet du moment? Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui fait que vous allez entretenir? Qu'est-ce qui fait qu'un sujet permet justement d'entretenir la réflexion?
Il y a un film qui est assez célèbre, que les gens connaissent beaucoup, dont on parle beaucoup, c'est Z. Je vous donne l'exemple de ce film. Moi, je suis immigré grec.
Qui est sorti en 1969, voilà, c'est votre 69. Troisième film.
Je suis venu en France très jeune pour faire des études, et puis je me suis détaché de la Grèce, j'ai décidé de vivre en France, je me suis naturalisé, etc. Et puis un jour, mon frère m'a envoyé un livre qui s'appelait Z, et je l'ai lu, et quelques jours après a eu lieu le putsch des colonels qui ont pris les pouvoirs. Et tout le monde a commencé à faire quelque chose contre les colonels. Et moi, j'avais ce livre avec cette histoire qui me plaisait beaucoup. Je parlais à des amis, comme Georges Saint-Prin, qui était l'écrivain. Je dis, je voulais faire les films, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Mais on va le faire comme on écrit sur le mur, à bas les colonels. Voilà. C'était vraiment un mouvement, comme ça, passionnel complètement, pour faire ce film. Voilà. Alors, les autres films, alors, le film est né. Le film, on a fait le scénario, alors... Je vous racontais très brièvement. D'abord, personne ne voulait faire le film, malgré le fait que tous les acteurs avaient accepté de le faire. On ne trouvait pas le financement. Et on l'a fait vraiment avec le minimum. Et avec les acteurs, et tout le monde n'était pas payé, ou presque.
Il y a des acteurs prestigieux.
Personne ne s'attendait que ce film marche. Tous les producteurs disaient non, ce film ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas un personnage central, etc., comme dans tous les films, et ben le film a été un succès énorme.
Vous pouvez nous raconter l'histoire de Z, juste revenir sur le fait qu'il n'y ait pas de personnage central dans Z. C'est justement l'histoire d'un assassinat.
C'est un assassinat politique et c'est aussi une enquête. Une enquête qui pourrait être permettre très vite si les juges obéissaient comme ça au pouvoir. Si les juges acceptaient ce que pour le pouvoir politique lui demandait de faire. Et ben le juge n'a pas accepté. Il a été jusqu'au bout de son enquête et il a accusé, enfin, il a trouvé les vrais coupables qui étaient la police et l'armée, etc. Voilà. Donc, c'est ça qui était intéressant dans l'histoire. C'est un mécanisme dans une démocratie. C'est ça qui m'a, entre autres, intéressé beaucoup. C'est qu'à partir du moment où, dans une démocratie, il n'y a pas de liberté de justice, il n'y a pas de liberté de police, il n'y a pas de liberté de presse, eh ben, le pouvoir fait ce qu'il arrange. Voilà.
Et on n'est plus dans une démocratie.
Mais c'est un film aussi sur la résistance en même temps. Un juge a résisté. Il a dit non, moi je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout et ça va me coûter ce que ça va me coûter. D'ailleurs, il a fini en prison.
C'est à la fois un film sur le pouvoir, voilà. Mais aussi les contre-pouvoirs, la manière de
absolument,
résister.
Absolument, le contre-pouvoir qui est permanent dans notre société. Et aussi, c'est aussi... Moi, j'aime beaucoup l'idée de la résistance. Parce que nous avons, entre nous tous, les moments où on peut résister sur quelque chose, des petites choses ou des grandes choses. Ou ne pas résister. Voilà. Et on fait des choix. Et si on ne résiste pas, eh ben on risque de subir des choses très négatives. Si on résiste un peu, on risque aussi de le payer, mais on est plus satisfait, on peut changer aussi le cours de l'histoire.
C'est ça du cinéma politique, car vous n'avez pas répondu à cette question, Costa Gavras.
Cinéma politique, moi, alors là, mon idée, c'est que tous les cinémas sont politiques. On
ah,
ne peut pas sortir de cette
dites-nous
idée.
Pourquoi.
Absolument. À partir du moment où on fait un spectacle, et dans une certaine manière, tout est politique. Ce qu'on fait en ce moment ici, c'est
que... politique.
Je vous parle, vous m'écoutez, ce que les spectateurs feront aussi, eh ben nous, c'est une relation politique. Politique, pour moi, ce n'est pas le sens. Donc, pour qui vous allez voter et pour qui vous allez avoir comme député ou ministre, etc., c'est notre comportement quotidien. C'est-à-dire, nous avons un petit pouvoir, tous, et comme il y a d'autres personnes qui ont un pouvoir au-dessus de nous. L'utilisation de ce pouvoir, qui peut nous rendre heureux ou malheureux, ben, c'est ça la politique, finalement. dans la ville. Je pense que c'est aussi simple que ça. Et après, évidemment, vient le problème politique pour le questionner, pour avoir un président, pour avoir des députés, des ministres, etc. Ça, c'est une autre politique. Ça fait partie de la grande politique. Mais mes films ne sont pas dans ce sens-là.
Et ce qui vous intéresse, est-ce que c'est, au départ, on parlait de l'idée qui naît, et vous êtes en train d'écrire un livre sur la naissance d'une idée. Vous êtes inspiré à la fois de l'actualité, mais aussi d'un roman où vous venez de parler de Z. Au tout début de Z, on peut lire cette phrase « Toute ressemblance avec des événements réels, des personnes mortes ou vivantes, n'est pas le fait du hasard, elle est volontaire. »
Et elle est volontaire parce que c'était une vraie histoire. Et je voulais dire aux spectateurs que tout ce que vous allez voir, c'est basé sur la réalité. Avec une petite différence quand même, parce que une réalité comme celle-ci dure des mois ou des semaines, tandis qu'un film dure 2 heures. Donc là, il y a une autre responsabilité qui vient. C'est là où entre en compte l'engagement dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est qu'il faut choisir des personnages et des situations, d'abord sur les vraies histoires, sur les vrais personnages et situations, mais en même temps respecter leur éthique. Ne pas les manipuler comme on peut faire au cinéma, mais respecter ce qu'ils ont été, en les résumant naturellement, mais respecter ce qu'ils sont. Et ça, c'est la grande difficulté, parce que pour la construction d'un scénario, pour la construction d'une œuvre, il y a des exigences par moment différentes. Et ça, c'est une vraie recherche.
Comment vous adaptez à ces différentes exigences?
Mais avec cette idée permanente, c'est qu'il faut respecter l'éthique des personnages et trouver des solutions.
C'est ça votre exigence principale, l'éthique des personnages.
L'éthique des personnages. Parce que c'est vrai qu'au cinéma, on peut faire beaucoup de choses. Vous savez, on peut faire rire les gens, on peut le rendre ridicule très facilement.
On peut transformer la réalité aussi.
Voilà. C'est-à-dire respecter ce qu'ils sont. D'ailleurs, pour en parler à ce film, comme dans d'autres que j'ai fait, les méchants, comme on dit d'habitude, ne sont jamais ridiculisés, ils sont ceux qu'ils sont. Et le spectateur décide s'il les accepte ou pas. En même temps, en faisant ces films, on crée une relation avec le spectateur. Et je pense qu'il faut respecter le spectateur. C'est ça l'engagement.
Donc, et c'est ça aussi une éthique du cinéma, c'est-à-dire de respecter les personnages, de dévoiler la réalité. Est-ce que c'est ça aussi qui vous, dès que vous avez l'idée, qui guide aussi cette manière de mettre en œuvre cette idée? C'est-à-dire de se dire, bon, on veut que ça corresponde le plus à la réalité.
Qu'il soit aussi près que possible à la réalité. Aussi près que possible, parce que la réalité, c'est tout à fait autre chose. Elle est beaucoup plus longue. Elle est beaucoup plus complexe. Les personnages ont des vies beaucoup
plus complexes. Des choses nous sont inaccessibles.
Absolument, inaccessibles en plus, voilà.
Et justement, c'est, à mon avis, c'est ça aussi qui guide votre... Vous allez me dire, peut-être que vous n'êtes peut-être pas d'accord, Costa Gavras, sur le fait que je vous ai posé la question de vous rentrer dans la tête des gens, mais vous montrez aussi les mécanismes du pouvoir dans Z. On va rester sur ce film encore un peu. C'est-à-dire toutes les compromissions du pouvoir, cet assassinat déguisé d'un député grec, déguisé en accident, fait par le gouvernement et en même temps accompli par la police et l'armée. Vous nous menez en fait dans les coulisses du pouvoir, mais est-ce que ce que vous montrez en fait c'est la réalité? C'est-à-dire que comment vous pensez que l'image peut montrer cette réalité-là plus que l'écriture par exemple, ou plus qu'un documentaire?
On rentre dans une... dialectique très complexe. Non, c'est pas la réalité, mais c'est le réel. Moi, c'est le réel. Voilà, pour moi, c'est le réel. C'est-à-dire que chaque fois qu'on attaquait mes films, on essayait d'expliquer que ceci a été, que ceci ou cela, on n'a jamais trouvé, même les gens qui n'ont pas aimé les films, qui étaient contre, sur le plan politique, disons, sur ce plan, ils n'ont pas trouvé les vrais éléments pour attaquer le film. C'était ça l'idée. Donc, il faut être... On essaye de reconstituer le réel, mais pas la réalité. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la réalité est longue, compliquée. Et vous avez parlé d'entrer dans la tête des gens. Non, on ne peut pas entrer dans la tête des gens. Personne ne peut entrer dans les gens. Même chacun d'entre nous, on peut difficilement entrer dans notre tête. Et tout savoir, c'est qu'on a dans notre tête.
C'est vrai, c'est d'ailleurs l'enjeu de vos derniers films. Non, les personnages sont victimes de la mondialisation, de la finance, mais finalement, ils ont complètement... ressaisit ces pouvoirs-là, ils incarnent ça. Je pense au Couperet avec José Garcia ou au Capital avec Gad Elmaleh, où effectivement, c'est plus des héros comme dans vos films des années 60, 70 qui se battent contre un pouvoir extérieur à eux. Là, on est véritablement dans un pouvoir qu'ils ont intériorisé et qu'ils vont eux-mêmes incarner.
Il y a un autre pouvoir aujourd'hui qui est presque une dictature dans notre société, c'est le pouvoir de l'argent. C'est le pouvoir des grandes banques, c'est le pouvoir des grandes sociétés financières qui font ce qu'ils veulent. Et nous avons des exemples des chefs d'État, enfin, ou des ministres, qui disent, nous faisons ceci, nous allons changer ceci, cela. Et puis quand ils arrivent au pouvoir, eh ben, ils n'arrivent pas à le changer. Parce que la puissance de finance aujourd'hui, des banques essentiellement, est telle qu'ils ne peuvent pas le changer. Alors, on ne peut pas entrer dans la complexité de pourquoi, mais elle existe, parce qu'il y a des lois différentes en Amérique, différentes en France, etc. Et le monde financier crée une sorte d'autre pouvoir qui leur appartient complètement. C'est pourquoi on dit de plus en plus qu'il y a de plus en plus de riches et de plus en plus de pauvres aujourd'hui.
Est-ce que vous tournez différemment des films ? Est-ce que quand vous vient justement, on en est encore sur la naissance de cette idée, mais aussi la mise en œuvre de cette idée, justement les contraintes financières, est-ce que c'est ça qui permet de maintenir qui peut tuer un projet ? Est-ce que vous avez des projets, par exemple, qui ont échoué ? Est-ce que vous avez dû revoir votre manière de concevoir une idée ou la manière dont vous vouliez la mettre en œuvre à cause justement de ces contraintes-là ?
C'est vrai qu'il y a cette situation-là, c'est-à-dire le problème du cinéma, pour revenir à la base, le problème du cinéma, c'est qu'on a besoin d'argent pour faire un film. C'est impossible. C'est pas comme quand on écrit un livre, il suffit d'avoir du papier et un crayon, enfin, on fait son livre, ou le peintre, ou même le musicien aujourd'hui, devant son piano, il fait ce qu'il veut. Un film, il faut de l'argent. Donc, il s'est créé deux phénomènes. D'abord, ceux qui donnent l'argent disent, nous, on ne finance pas. C'est une censure, mais censure pas visible, puisque c'est la volonté de chacun de faire ce qu'il veut. Et puis il crée aussi un autre phénomène, c'est l'autocensure. C'est-à-dire les cinéastes disant que moi je veux faire un film sur tel problème de société, mais il dit mais je vais peut-être travailler pendant 6 mois, 1 an, pour faire le scénario, etc. À l'arrivée, je ne trouverai pas l'argent pour faire le film. Donc je fais quelque chose de plus facile. Donc il s'est créé une autocensure. Mais heureusement en France, on peut dire que nous sommes privilégiés, parce qu'il y a un système du cinéma, plutôt il y a une volonté qui a été exprimée juste le lendemain de la guerre, de la libération. Le général de Gaulle était chef du gouvernement, il y avait un gouvernement d'unité nationale, ils ont décidé que la France doit avoir son cinéma. Et depuis, tous les gouvernements ont accepté ce principe, et le cinéma français est aidé pas seulement avec de l'argent, il y en a un peu d'argent, mais aussi par d'autres types de facilités. Je vais vous en donner une, que vous connaissez peut-être. Le samedi soir, il n'y a pas de film à la télévision. Pourquoi ? Les cinéastes l'ont demandé, ils l'ont obtenu parce que les spectateurs peuvent sortir, aller au cinéma, ou aller au théâtre, aller au restaurant, etc. Donc, c'est cela. Et puis, il y a toute une série de réglementations de ce type qui font que le cinéma français existe, qu'il est sur le plan de la production un des meilleurs au monde, sinon le meilleur au monde, pas sur le plan de recettes, ça c'est l'Amérique. Mais sur le plan de la production, sur le plan en même temps du renouvellement. Vous savez, en France, nous avons entre 30 et 40 jeunes metteurs en scène qui font leur premier film. Ça veut dire que la relève est assurée. Vous n'avez pas ça en Amérique, où ils font beaucoup de films, vous n'avez pas ça en d'autres pays. Donc, c'est ça la facilité en France. On peut faire des sujets beaucoup plus difficiles qu'on ne peut pas faire dans d'autres pays.
Et vous prenez ça en compte quand vous projetez déjà de faire le film ? C'est-à-dire qu'une fois que l'idée est venue, par exemple, comment vous allez transformer cette idée ? Moi, je pense, par exemple, une idée d'un film. Par exemple, Z, quand vous avez lu le roman de Vassilis Vassilikos, vous avez eu des problèmes de financement, vous nous en avez parlé, parce que personne ne croyait en cette histoire où il n'y avait pas d'histoire d'amour. Mais comment même vous avez présenter ce projet-là ? Comment vous l'aviez conçu dans votre tête ? Comment vous avez travaillé avec Georges Samprin pour ce film ? Comment se crée à partir d'un roman, à partir de la réalité, un film ? Est-ce qu'on a déjà des images ? Est-ce qu'on prend déjà en compte les contraintes de lieu, d'argent qu'il y aura ?
Ah oui, non mais ça c'est encore plus difficile. C'est-à-dire qu'on lit un livre, on s'est dit voilà, il y a un film. Je pense que chacun, quand d'entre vous lisez un livre, vous projetez des images. Vous voyez, vous faites votre film. Vous voyez les personnages, vous voyez comment ils réagissent, vous voyez ce qui est bien, ce qui est moins bien, c'est les bons, les méchants, comme on dit toujours très simplement. Donc, quand on lit un livre ou quand on a une idée, on dit voilà, dans cette idée-là, il y a un film. Donc, il faut l'écrire. Et il faut écrire le scénario qui est la première matière d'un film. Et on se met à écrire, et souvent avec un collaborateur, très souvent sans être payé. Ou alors, en trouvant un producteur qui donne un peu d'argent, comme ça, à l'un des deux, ou aux deux, comme ça, juste pour voir. Et on fait le scénario. Et une fois le scénario fini, on le donne au producteur, c'est lui qui a donné un peu d'argent, ou même beaucoup parfois, s'il croit beaucoup au scénario. Et puis on va aux acteurs. On choisit les acteurs. On s'approche aux acteurs, les acteurs principaux d'abord, et puis après aux autres. Et s'ils acceptent, c'est aussi une autre force. Et quand le sujet est intéressant, comme le film, comme Z, on a déposé au Centre National du Cinéma une commission qui donne un peu d'argent, qui correspond à peu près entre 8 et 10% du budget. Voilà. Et une commission de professionnels du cinéma, des écrivains, etc. Ils lisent le scénario, ils disent, voilà, ce scénario mérite d'avoir cette aide. C'est une aide du cinéma que l'État récupère l'argent quand le film sort. Voilà. C'est déjà un bonus. Un bonus et aussi un label parce que ça intéresse immédiatement les productions, les producteurs, et aussi ça intéresse les financiers et les télévisions, parce qu'aujourd'hui, le cinéma en France se fait beaucoup grâce aux télévisions. Parce que là aussi, le gouvernement a imposé aux grandes chaînes de produire des films, c'est-à-dire de dépenser une partie de leur budget à des productions cinématographiques. Et il a même été créé une chaîne, Canal+, à son origine, pour le cinéma. Et c'est vrai que le Canal+ joue un rôle très important pour la production cinématographique. Alors si Canal+ accepte, et il le fait à, disons, à 40% de...
Vous pensez à Canal+ quand vous faites un...
Mais non, on ne pense pas à ça. Il ne faut rien penser. À mon avis, quand on fait un scénario, il ne faut penser à rien du tout qu'à l'histoire. Et on verra après, quand il sera fini. Parce que si on commence à penser à cela, à des acteurs, et qui va le faire, qui ça va plaire, qui ça ne va pas plaire, c'est fini.
Alors avant ça, justement, avant de penser à ça, par exemple, quand vous lisez un roman, vous vous dites ça, j'ai déjà la scène qui se crée, ah non, ça, en fait, je l'écarte, c'est trop narratif, ça n'est pas utile. Comment vous choisissez, comment vous décidez de sabrer un texte ou pas? Énormément de vos films partent de livres, je pense aussi à Claire de Femme, d'après un roman de Romain Gary. Le Capital aussi est inspiré d'un roman. Et puis, évidemment, l'aveu du récit d'Arthur London. Donc, à partir de ça, comment, qu'est-ce que vous gardez d'un texte?
Alors là, c'est un long travail. C'est un long travail.
Parfois, sans trahir le récit, sans avoir l'impression de trahir l'auteur.
Vous savez, c'est quoi le cinéma? C'est qu'on fait ce qu'a fait l'auteur du livre, mais on raconte l'histoire avec des images. L'auteur le raconte avec des mots, et nous, on le raconte avec des images. Et il faut le faire comprendre, il faut que ces images soient comprises par les spectateurs. Donc, on cherche à suivre l'histoire, à respecter l'histoire et les personnages, comme je disais, et après, fait une construction qui va en intéressant le spectateur. Là, je ne vais pas vous... Là, il faut dépasser des... Je ne saurais pas le faire.
Par exemple, pour Z, est-ce que il y a des moments où vous vous êtes dit, là, je vois déjà, je suis en train de lire le roman, je vois déjà une scène se faire, là, Jean-Louis Trintignant aurait ces lunettes-là, là, j'aimerais le construire de cette manière-là. Oui. Et qu'est-ce que va apporter l'image à l'écriture, en fait? Est-ce que l'image, elle va apporter quelque chose que l'écriture manque?
Non, l'écriture a son rôle, l'écriture apporte beaucoup, énormément même. Mais ça, c'est une relation entre le lecteur et le livre. Là, il faut remplacer l'écriture par des images. Parce qu'un Trintignant, qui dit des choses? Qui fait des choses? Donc, on le choisit par rapport à je ne sais pas quoi. Voilà.
Vous n'avez pas une idée, par exemple?
Non, parce qu'il n'y a pas, d'explication là.
Ça vient comme ça.
Ça vient comme ça, comme voilà. Ça nous plaît ou ça nous plaît pas. Ça nous touche profondément ou ça nous touche pas.
Ça marche ou ça marche pas.
Ça marche, ça marche pas. Mais ça a marché. Il faut mieux de ne pas penser, parce que beaucoup de gens disent qu'on fait des choses qui marchent. Il y a Cocteau qui disait une très belle chose à propos des choses qui marchent. Il disait il y a des règles pour faire marcher des choses, mais nous ne connaissons pas ces règles. Et c'est à mieux que nous ne les connaissons pas. Sinon, on ferait les mêmes films.
Sinon, ce serait des recettes. Oui. Vous appliqueriez des recettes. Alors j'aimerais aussi parler de la manière dont vous construisez justement un récit, c'est aussi l'importance du montage. Beaucoup de vos films sont fondés un peu comme des enquêtes, des reconstitutions. Il y a Z dont on vient de parler, qui reconstitue un assassinat qu'on fait passer pour un accident, mais il y a aussi Missing, qui raconte l'histoire. Le père et sa belle-fille veulent retrouver le journaliste Charles Orman. Il y a d'autres films comme ça sous forme d'enquête. Qu'est-ce qui justement, quand vous êtes au moment du montage, après avoir eu l'idée, après avoir eu effectivement le tournage, avoir été confronté aux contraintes, qu'est-ce que vous voulez faire primer ? Est-ce que vous voulez faire primer l'esthétique, la lisibilité, reconstituer quelque chose de clair pour le spectateur ? Quel est votre but en fait dans le montage, ou éclairer peut-être la réalité, le réel, mais, comme vous disiez ?
C'est comme on raconte une histoire, on est à table, entre amis, un soir, et bien il y a quelqu'un qui vous raconte une histoire. Cette histoire a un début, un milieu et une fin. Et il faut que la fin, toujours, soit quand même intéressante. Voilà.
Il faut qu'il y ait une chute.
Une chute, comme vous dites, ou plutôt une montée, enfin, comme vous voulez. Donc, c'est ce qu'on fait. La différence, c'est que nous racontons cette histoire en une heure et demie, en deux heures. Parce que ce sont des longues histoires. Donc, c'est cette idée-là qui, finalement, ne sont pas autre chose que des conteurs d'histoire. C'est aussi simple que ça, avec des images.
Comment on agence ?
Je vous surprends, là.
Oui, vous me surprenez parce que vous avez... parce que l'agencement de l'image, de la parole, du jeu, fait que peut sortir tout autre chose qu'une simple histoire.
Parfois, il sort tout autre chose, et c'est le film est raté. Et ça nous arrive aussi.
À raconter, par exemple.
Eh bien, vous commencez à travailler, et puis vous avez un sentiment... Il faut aller dans ce sens-là. Et puis, à un moment donné, les personnages, tout ça, vous échappent. Je ne sais pas quand ou où. Et vous le découvrez quand le film est dans les salles. Vous ne le savez pas avant. Parce que si vous le savez avant, vous arrêtez. Mais non, vous le découvrez quand les spectateurs sont là, ils regardent le film, et puis ils ne viennent pas. Et très souvent, ils ne viennent même pas. Ils savent avant d'être entrés dans la salle. Et ça, c'est le grand mystère. Comme c'est un mystère pour le film à succès. Tout d'un coup, la salle est pleine. Et heureusement, je reviens encore une fois au mot de Cocteau et j'insiste beaucoup à ces mots, vous voyez. On fait les choses avec... parce que finalement, un metteur en scène, c'est quoi ? C'est aussi en même temps un spectateur, n'est-ce pas ? Je suis le spectateur du film. Et j'essaye de faire des choses qui me plaisent comme spectateur. Et je ne peux pas dire qu'ils vont plaire aux autres spectateurs, parce que les autres spectateurs, je ne les connais pas. Parce que vous êtes combien ici ? Vous êtes une centaine ici, peut-être un peu moins, mais vous êtes tous différents. Avec des sentiments et des expériences de vie différentes, donc je ne vous connais pas. Le seul repère que j'ai, c'est moi-même comme spectateur. Alors je l'ai fait comme moi, j'aimerais. Et alors vous l'aimez bien ou vous ne l'aimez pas.
Et pourtant, il y a quand même quelque chose qui vous échappe, qui peut vous échapper.
Mais bien sûr, très souvent.
Ça vous est arrivé avec quel film ?
Ça m'est arrivé un film, mon deuxième film, qui s'appelait Un homme d'étro, c'était une histoire de résistance. Et c'est vrai, le film est sorti. Eh bien, ça n'a pas du tout marché. Et les critiques n'étaient pas bonnes. Ce qui est assez curieux, d'ailleurs, avec le temps, c'est que le film est sorti dans un coffret que j'ai fait dernièrement. Il est passé dernièrement à Canal+, et il y a eu des critiques formidables. Et à Arte. Et Arte m'a envoyé un petit mot le matin. Il disait, nous avons un score extraordinaire. Voilà. Ça peut arriver. Mais non, il y a d'autres films qui ne marchent pas. J'ai fait un film avec Johnny Hallyday et Fanny Ardant. Conseil de famille, qui me plaisait beaucoup comme histoire. Et bien, ça n'a pas marché du tout.
C'est l'histoire d'une famille acteurs, qui fait des petits braquages, c'est ça ?
Non, l'histoire, c'était l'histoire d'une famille de voleurs, et les enfants... Alors, les parents voulaient absolument avoir une grande quantité de biens, avoir des maisons, avoir des piscines, etc., des belles voitures, et les enfants, quand ils sont devenus adultes, ils ont dit non, on veut pas une quantité de biens, mais une qualité de vie. Donc, on ne veut pas avoir tous ces biens. C'est la qualité de vie qui nous intéresse. Donc, cette différence, j'ai essayé de la raconter dans le film, et bien, ça n'est pas passé aux spectateurs. Et le film n'a pas marché, malgré les acteurs aussi importants que Johnny Hallyday, comme Fanny Ardant, etc. Vous voyez, ça arrive.
Est-ce que vous pensez aussi que vous avez voulu, à ce moment-là, changer de manière de filmer ? Est-ce que vous pensez que vous êtes passé aussi d'un moment de grands films, on va dire des films dossiers sur des grands événements historiques, politiques, à des choses plus de la vie ordinaire, et que il y a eu cette évolution-là dans votre travail, peut-être cette progression, ou je ne sais pas, en tout cas ce changement de perspective.
Non, mais vous savez, les grands événements, derrière les grands événements, il y a des hommes et des femmes. Hein. Et ils ont une vision, ils ont une façon de penser, une façon d'être. C'est ça qu'on raconte. Et on voit les grands événements à travers eux. On ne peut pas dire on va faire un grand événement comme sur la Révolution française. On a essayé à l'époque de faire des grands films, pas en se basant uniquement au propos du bicentenaire. Mais ça n'a pas marché. Parce que on va au cinéma pour voir des hommes et des femmes comme nous et voir comment ils réagissent, comment ils se sentent, comment ils... Enfin, aujourd'hui, il y a des gens qui posent la question, est-ce qu'un jour, vous allez avoir des hommes numériques? On m'a posé cette question à l'université il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire, on va avoir des poupées. J'ai dit, mais non, on veut voir d'autres hommes et des femmes, parce que finalement, c'est à cela qu'on se reconnaît. On ne veut pas se reconnaître à des poupées, à des plastiques.
Vous avez parlé, Costa Gavras, du fait que vous pouvez être surpris parfois par la manière dont votre film, dont un film, dont des personnages vous dépassent. Est-ce que vous avez déjà découvert, vu l'histoire que vous vouliez raconter d'une autre manière est-ce que vous avez découvert vous-même des choses en regardant votre propre film ou en le montant? Est-ce qu'il y a des choses, vous aviez prévu par exemple de donner tel sens à l'histoire et vous avez été complètement dévié en fait de ce sens-là? Est-ce que de manière générale d'ailleurs, vous appliquez un programme, un plan que vous avez préétabli, ou est-ce que parfois vous créez au fur et à mesure des événements, des contraintes et du hasard?
Non, comme je disais, on j'essaie de rester spectateur, mais on a une idée au départ. On a une idée pour faire le film. Et puis cette idée-là, on l'écrit, on la met sur papier. Et déjà, elle se déplace un peu. Par l'exigence même de la construction du scénario et par l'écriture. Et puis, on décide de prendre des acteurs. On prend des acteurs X, Y, et pas avec les responsabilités, malgré le fait qu'on les dirige, qu'on les oriente. L'histoire peut se déplacer encore un tout petit peu. Et puis, on a des techniciens. Et chacun de ces gens-là, que ce soit les acteurs, les techniciens, etc., ont leur vision. Donc là encore, l'histoire peut se déplacer encore un tout petit peu, devenir autre chose. Donc le rôle du metteur, et ça, pendant le tournage, c'est encore pire, parce que vous avez les acteurs qui jouent, les décors, etc., l'extérieur. Donc le rôle du metteur en scène, c'est de rester à son idée initiale, tout le temps, aussi précisément que possible, mais s'il est impossible de contrôler ce dérapage. Donc ça change, et puis vous arrivez au montage, et ça peut changer encore un peu. Voilà. Et vous sonorisez le film avec la musique, etc., et les sons, et ça peut encore changer. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, arriver devant le public, ça ne peut ne plus être le film que vous avez envisagé au départ. Voilà. C'est ça. Alors j'ai un exemple que j'ai entendu il y a longtemps par un professeur de cinéma qui disait que le film, c'est comme ce peintre chinois à qui l'empereur a demandé un grand tableau. Et le peintre est parti, et au bout d'un an, il n'est pas revenu. Et l'empereur a envoyé quelqu'un, lui dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et le peintre, il a dit, je viens encore dans 2 mois, je viens. Il est arrivé et il a dit, où est le tableau? Il dit, donnez-moi de la peinture, donnez-moi un grand canevas et je vais vous faire le tableau. Et il l'a fait, complètement, très vite. Et l'empereur lui a dit, combien je vous dois? Il lui a demandé une somme énorme. Il dit, mais vous êtes fou, vous avez travaillé une heure ou deux heures et vous me demandez autant d'argent? Il dit, non, je travaille depuis un an et demi. C'est-à-dire, il avait dans sa tête complètement le film, dans le moindre détail. Et comme ça, il a pu le réaliser. C'est un film, c'est pareil. Je vous disais qu'on travaille sur le scénario un an, sinon un peu plus. J'ai fait un film qui s'appelle Amen, où on travaillait avec Jean-Claude Grimbert pendant 2 ans pour le scénario, pour vérifier un tas de choses, pour trouver des axes justes, le personnage juste, etc. Eh bien, on fait le film en quelques semaines. Mais il faut l'avoir complètement dans sa tête, dans le monde de taille. C'est aussi, c'est la seule manière pour que le film, que l'histoire ne se déplace pas, qu'elle n'aille pas dans une direction tout à fait différente. C'est pour ça que je dis aussi que le metteur en scène est le maître d'œuvre, que c'est lui qui doit avoir tout le pouvoir. Après, c'est un pouvoir dictatorial, sans devenir dictateur, mais il faut que ça soit lui, sinon c'est l'œuvre de tout le monde. C'est une commission qui fait un film, et on peut savoir les résultats que ça peut avoir.
À savoir plutôt...
Raté. Non, le film de personne. Un film, c'est le film de quelqu'un. Comme une peinture, c'est la peinture de quelqu'un, le livre, etc., etc.
Ce qui m'a frappé en regardant vos films, Costa Gavras, c'est que vous révélez ce qui est caché, c'est-à-dire que, en fait, ce qui est sous nos yeux, mais ce qu'on ne voit pas tout de suite, et que le montage permet de voir d'une autre manière. Je trouve qu'il y a tout un travail comme ça de lisibilité et d'association d'images où la réalité ou le réel, comme vous disiez, apparaît d'une autre manière. Mais il y a aussi toute une part d'invisible. Vous ne voulez pas que tout montrer, tout révéler. Il y a aussi une part d'invisibilité. Je pense à ce film Missing, dont on a déjà parlé, justement sur une disparition. Le personnage principal, il est manquant. Il faut reconstituer une absence. Et il y a cette très belle scène où le père et la belle-fille donc de ce journaliste et sa belle-fille sont à sa recherche et sont dans un bâtiment où les cadavres sont entassés, les cadavres de la dictature de ce coup d'État.
Pinochet au Chili.
Exactement. Et il ne voit rien, il ne détecte à peine les cadavres, il tourne les yeux vers le ciel, la verrière elle-même est jonchée de cadavres et il y a juste quelques rayons de lumière comme ça qui transpire. Je trouve que c'est une très belle image de votre cinéma aussi, qui à la fois veut montrer des choses, mettre en lumière certains éléments, mais va laisser aussi toute une part d'ombre. Il y a certains dirigeants qu'on ne voit pas, il y a certaines choses qui continuent à nous échapper.
C'est-à-dire, je pense qu'il faut suggérer des choses et faire participer les spectateurs au récit. Puis se pose des questions ou essaye d'en voir plus que le récit, parce qu'on ne peut pas tout montrer. Pour cette scène particulière, par exemple, on savait qu'au Chili, à l'époque, il y avait des milliers de gens qui étaient disparus ou assassinés par Pinochet et ses militaires. Eh bien, quand je fais le film, et c'était une vraie histoire, l'Américain qui arrive au Chili chercher son fils, on lui permet d'aller dans une des morgues qu'ils avaient pour voir, à l'œil voir, on avait une cinquantaine, je ne sais plus combien, de figurants un peu partout, mais ça ne donnait pas cette idée du nombre extraordinaire. Et cette scène, je voulais quand même la suggérer. Et puis je me suis souvenu d'une chose que me disait ma petite fille quand une de ses grand-mères est morte. Il disait « Elle est au ciel ». Elle faisait ça, « Elle est au ciel ». Et puis cette idée m'est venue et j'ai demandé à l'actrice du film, qui est là avec Jack Lemmon, si je passais, je lui ai demandé « Lève tes yeux ». Et on avait préparé un plafond en verre avec d'autres cadavres. Tout d'un coup, il y avait les cadavres au sol et des cadavres au-dessus. Et tout d'un coup, ça devenait énorme. On donnait l'impression du nombre, sans avoir plus d'ombre d'ailleurs. D'ailleurs, on avait un problème très particulier pour faire cette scène, parce qu'il fallait construire avec une chose de verre, etc. Enfin, ça, c'est un détail. Et donc, c'était pour donner cette idée de l'énormité. J'avais le même problème, par exemple, quand je faisais un film qui s'appelle Amen, et il fallait montrer qu'on transportait des milliers de personnes vers les camps de concentration. Alors, il y avait une petite scène qu'on avait fait avec Jean-Claude Lambert, où il disait, voilà, il y a tant de... Et je pensais que c'était la parole n'est pas assez, il fallait avoir des images. Alors, j'ai imaginé à un moment donné des trains qui passaient, l'action du film était interrompue par des trains qui passaient, des trains de marchandises avec des portes fermées, qui passaient de gauche à droite, et puis il y a d'autres trains qu'on voyait un peu plus loin, qui revenaient de droite à gauche avec les portes ouvertes. Il y avait des trains pleins, des trains vides. Donc, c'est cette idée-là qui nous donnait, répété plusieurs fois dans le film, donnait l'idée de l'énormité de cette déportation. Voilà. Et c'est là où le cinéma et les images jouent un rôle important, c'est raconter les choses avec des images sans avoir à le dire.
Il y a une autre scène dans Amen qui est frappante d'ailleurs sur où la suggestion fonctionne. C'est le moment où Gernstein, donc le héros, le SS qui se rend compte que le Zyklon B qu'il fabrique en fait sert à exterminer des Juifs, regarde dans une chambre à gaz. On ne voit pas. La caméra n'est que tournée sur le regard, même un gros plan sur son visage pour voir ce qu'il regarde. Et on est en fait complètement avec lui. C'est-à-dire que ce qu'il voit, on l'imagine. Où c'est inimaginable, justement, c'est peut-être ça aussi, en fait, ce qui est suggéré. Et on est complètement avec lui.
Bah oui, parce que là, il y avait un autre problème que j'ai eu, c'est que montrer l'horreur de ce qui s'est passé dans une chambre à gaz, c'est, à mon avis, absolument impossible. Peut-être qu'un jour, il y aura un metteur en scène, il y aura les moyens, je veux dire, psychologiques et autres, et d'acteurs et des figurants pour le montrer, c'est-à-dire des gens nus, complètement, avec des enfants, etc., nus dans une chose sombre, et où ils reçoivent ce gaz épouvantable et ils sont morts. Donc c'était impossible de montrer ça. Il fallait quand même le suggérer. Alors j'ai cette SS, avec d'autres SS qui sont là, ils lui montrent ce qu'on fabrique avec le gaz, avec les cyclones. Et ils s'approchent, ils ont une... Ça c'est vrai, d'ailleurs, ils avaient une sorte de Judas, ils regardaient à travers. Ça, ils voyaient ce qui s'est passé. Et le type, mon acteur principal, s'approche, il regarde, et il était absolument effrayé lui-même. Donc il fallait que le spectateur s'identifie à ces personnages-là et pour comprendre ce qui se passe derrière, qu'il fasse lui-même ses images, ou enfin, avec son expérience qu'il a. Et ça arrive très souvent dans les films, de ne pas pouvoir. Là, c'est un cas très particulier, mais ça arrive aussi à d'autres moments dans un film, où il faut suggérer des choses, à travers l'acteur, des choses qui se passent.
D'ailleurs, c'est intéressant, Castagavras, parce qu'on fait beaucoup de vos films à des films politiques, ou du moins sur le pouvoir, mais en fait, vous montrez beaucoup des subalternes, des techniciens, des gens de l'ombre, plus que des gens du pouvoir, des gens qui participent au pouvoir, mais plus que des gens du pouvoir. Par exemple, dans Section spéciale, on ne voit pas Pétain. Il est caché. Et de la même manière, dans Amen, le pape a tout le temps le visage tourné vers le sol. On voit à peine son visage. On est tourné vers le personnage de Mathieu Kassovitz ou vers Gernstein, mais on est très peu, en fait, face aux hommes de pouvoir. Vous nous montrez les gens dans l'ombre. En fait, vous nous montrez même l'impuissance du pouvoir.
La puissance du pouvoir, c'est d'avoir des subalternes qui font un travail. Et son problème, c'est parfois, comme dans le cas de Kassovitz et de l'acteur allemand qui s'appelle tout court, d'avoir des personnages comme cela qui résistent, qui ne suivent. C'est ceux du subalterne, mais qui n'acceptent pas de faire le travail. Voilà, c'est les résistants. Et je reviens encore au thème général qui m'intéresse énormément dans mes films, c'est la résistance, dont je parlais un tout petit peu avant. Donc là, nous avons, dans Amen, nous avons deux personnages qui résistent et qui le payent avec leur vie aussi. Mais ils vont jusqu'au bout. Ils savent très bien que ça risque de leur coûter très cher, mais ils continuent quand même à résister et à dénoncer ce qui se passe dans les camps de concentration.
Est-ce que vous avez déjà mis en scène un personnage qui ne résistait pas, Costa-Gavras ?
Une scène qui ?
Un personnage qui ne résiste pas. Est-ce que vous avez déjà mis
mais
en scène...
Oui, mais je disais à l'instant, tous les subalternes font un travail. Ils disent, allons-y.
Mais ils résistent d'une certaine manière.
Bon, à partir du moment où ils se soumettent...
Ils sont même, c'est peut-être même, vous les décrivez même peut-être comme les pires. Parce que c'est ceux
mais
qui.
Mais bien sûr, c'est les pires, décidé. Parce que c'est eux qui font le travail. C'est sans eux, le pouvoir ne peut pas continuer. Sans une police qui se soumet complètement, ou c'est une justice qui se soumet complètement, le pouvoir n'existe plus. Enfin, je veux dire, le pouvoir existe. Si la police ne se soumet pas, si la justice ne se soumet pas, le pouvoir change complètement, vous voyez.
Est-ce que vous pensez que le cinéma peut être un contre-pouvoir aussi, peut résister ? Est-ce que c'est ça peut-être aussi une mise en scène, un scénario, un cinéma politique ?
Non, je disais, il ne faut pas le présenter comme cela. Comme je disais tout à l'heure, le cinéma a une sorte d'ouverture extraordinaire dans le monde. Vous savez, on fait un film ici, à Paris, avec des petits moyens, et tout d'un coup, le film fait les tours du monde. On le voit en Amérique, on le voit en Chine, on le voit au Japon, un peu partout. Donc, c'est un pouvoir extraordinaire. D'abord, pourquoi ? Parce que, comme nous, ici en France, quand on voit un film argentin... On voit la vie argentine, on voit ce qui s'est passé en Argentine, ou ce qui se passe en Argentine, ou au Portugal, ou ailleurs. Donc c'est cette relation-là qui est un pouvoir extraordinaire. Bon, vous l'appelez politique si vous voulez, vous l'appelez sentimental, vous l'appelez comme vous voulez, moi ça m'est égal.
Mais sentimental, je ne sais pas si ça conviendrait, mais...
C'est un pouvoir. Donc c'est ça, à mon avis, et c'est là le rôle du cinéma, depuis son début, pour changer, pour avoir changé pas mal le monde. Mais il ne faut pas non plus qu'on mette en scène, on se dise, moi je vais faire un film pour changer le monde. Alors c'est une stupidité totale, à mon avis.
Pourquoi ?
Voilà. Non, parce qu'on ne peut pas changer le monde. On peut faire ce qu'on a envie de faire, raconter son histoire, dire son opinion, et après il ne sait pas ce qui se passe. On ne peut pas dire, je vais faire un film, bon,
Ce serait justement dictatorial, prétentieux.
Non, c'est idiot, parce que le monde est grand, le monde est différent. On ne peut pas décider, bon, ou alors si on veut changer le monde, on devient président, on devient, je ne sais pas moi, prophète. Le cinéma fait du spectacle. Hein. Je reviens toujours, on fait du spectacle, et ça peut marcher, ça ne peut pas marcher. Il faut ne jamais oublier cela.
Justement, vous êtes sensible à la réception de vos films. C'est-à-dire, quand un film n'a pas marché, est-ce que vous dites, là, je sais d'où ça vient, ou est-ce que vous dites, bon, c'est un mauvais sujet, je passe à autre chose? Comment vous essayez de passer d'un projet à l'autre? Est-ce que ça se fait parce que ça a marché ou pas?
On ne sait rien du tout, on ne sait pas pourquoi ça n'a pas marché, et tant mieux, mais on est très malheureux. On est très malheureux et on a envie de tout arrêter. Il dit, voilà, j'ai raté, je ne peux plus faire quelque chose de bien. Mais moi, alors, il passe un ou deux mois et puis au bout d'un moment, je dis, voilà, bon, moi, je vais recommencer parce que... d'abord, je ne sais pas autre chose à faire. Et puis aussi, parce qu'on a la passion du cinéma aussi. Et cette passion-là qui vous guide pour aller au prochain film, qui va marcher ou qui ne va pas marcher, mais vous le faites quand même.
Il y a un de vos films, Costa Gavras, qui s'appelle Mad City, qui est sorti en 1997. C'est un film tourné aux États-Unis. Il y a John Travolta qui interprète un preneur d'otages, en fait un pauvre type d'abord, qui en fait se retrouve à prendre en otage une classe parce qu'en fait il veut retrouver son travail. Et puis il y a sur les lieux Dustin Hoffman qui est un journaliste, qui en fait va être là, va exploiter cette histoire-là. Alors il a un rapport un petit peu ambigu, c'est-à-dire que d'un côté il a beaucoup d'empathie pour ce pauvre type, et en même temps il va aussi s'en servir comme d'un scoop. Et il a cette phrase qui revient souvent, l'opinion publique est versatile. Est-ce que vous, à des moments aussi, vous vous dites, si je présente les choses comme ça, est-ce que vous, il faut que ce soit compris plutôt d'une certaine manière? Est-ce que vous tentez vous aussi d'orienter votre public, Votre film, la construction, le montage, pour cette opinion publique?
Mais je fais ce film précisément pour montrer que j'essaye de ne pas faire ça. C'est-à-dire que, quoi, c'est l'histoire. C'est une toute petite histoire, une petite prise d'otage d'un pauvre type qui pourrait se finir en 24 heures, très facilement. Et ce journaliste-là, qui est un journaliste de télévision, qui est un tout petit peu sur le déclin, réussit, avec sa rédaction, d'en faire une histoire énorme, de la faire durer. Et ça devient très dramatique, et tout le monde s'intéresse dans la ville, parce qu'en Amérique, il y a beaucoup de télévisions locales, et de la télévision locale devient un problème d'État, et de l'État, ça devient un problème des États-Unis, et puis presque mondial. Et il revient au premier plan, comme journaliste. Alors, il est, d'une certaine manière, manipulé aussi par sa rédaction. Il est manipulé parce qu'il faut faire de l'audience, il faut faire de l'audimat. Voilà. Et voilà, c'est ça que le film raconte, et finit finalement un tout petit peu très mal, parce que le pauvre type qui est Travolta ne réussit pas à s'en sortir. Je ne vais pas vous dire la fin, ça finit mal. Voilà, c'est ça l'histoire.
Oui,
c'est
ça,
comment
finit
je
mal.
Dis, le média, parfois, peuvent changer complètement l'histoire. Alors si je le fais, c'est précisément pour montrer qu'au cinéma on peut le faire, mais moi je ne le fais pas. Voilà.
Justement, est-ce que le cinéma est un contre-pouvoir, mais enfin, comment dire, plutôt qu'un contre-pouvoir, un pouvoir un petit peu ambigu?
Pas autant que les médias, surtout l'audiovisuel de télévision. Hein. Il n'a pas le même pouvoir.
Pourquoi?
Parce que la télévision est dans la maison de chacun, tous les jours et en permanence. Nous, c'est un choix. Vous allez au cinéma, vous achetez un DVD pour voir un film, c'est tout à fait une autre relation. Tandis que la télévision, c'est un témoin permanent, c'est un parent. Il est chez vous.
Vous avez employé ce terme, Costa Gavras, de manipulation. Est-ce que vous pensez que vous mettez souvent en scène la manipulation des individus, mais est-ce que le cinéma peut justement juste faire prendre conscience de cette manipulation-là? Alors, à défaut d'orienter, en tout cas, faire prendre conscience.
Prendre conscience, chacun a sa conscience. Hein. On ne peut pas entrer dans la conscience de chacun. Chacun vit avec sa conscience, avec sa culture, avec ce qu'il pense, et il voit le film, il les interprète comme il veut. Je disais tout à fait au début de cette rencontre, je disais que on propose une histoire, vous avez des émotions ou pas, vous en avez, vous faites ce que vous voulez. On ne peut pas entrer dans la conscience, et heureusement on ne peut pas entrer dans la conscience. Ça, c'est, on rentre dans la science-fiction et la manipulation comme le font certaines religions d'ailleurs. Ils font rentrer dans la conscience des gens et ils font d'eux ce qu'ils veulent. Bah, on a des exemples, quelques-uns actuellement. Depuis quelque temps.
Donc vous voulez faire prendre, vous voulez révéler, non pas faire prendre conscience parce que le terme serait trop fort, vous voulez émouvoir, vous voulez faire réagir. Est-ce que vous attendez quelque chose en fait de...
Non, émouvoir.
Émouvoir.
Émouvoir, intéresser, émouvoir, c'est tout. Je reviens encore à l'exemple un peu banal et trivial que je vous ai donné, l'histoire qu'on raconte à des amis. Voilà, on veut faire quoi ? On veut intéresser, amuser, être même quelqu'un qui raconte des bonnes histoires. Il y a ça aussi, il y a la partie personnelle aussi. Mais voilà, c'est ça qu'on veut.
Justement, une bonne histoire, est-ce que on parle moins parce que vous traitez des sujets assez graves, en fait, qui peuvent être reçus de manière assez grave. En fait, il y a beaucoup d'humour dans votre cinéma. Je pense à votre premier film, Compartiment Tueur, qui est extrêmement drôle. Je pense aussi à vos derniers films, Le Couperet, Le Capital, qui sont très ironiques. Puis il y a des moments aussi dans Missing, on a parlé de ce film, des confrontations entre le père qui incarne l'Amérique traditionnelle face à sa belle-fille qui est la hippie, qui parle n'importe comment, s'habille n'importe comment. Tout ça, vous avez beaucoup d'humour.
Oui, mais je pense que l'humour était nécessaire. Hein. Dans la vie, on rit même pendant les enterrements, on a des fous rires. Donc, je sais qu'il y a toute une mouvance, notamment dans certains milieux, que je ne condamne pas, mais je pense que, je vous le dis parce qu'elle existe, qu'on ne peut pas mélanger le rire, on ne peut pas rire avec des pièces de Racine, par exemple, c'est impossible. Mais moi, je suis pour Molière. Vous voyez, Molière, il raconte des choses intéressantes, on rit, et puis il raconte la société aussi.
Ou pour Shakespeare, vous le citez dans votre tout premier court-métrage.
Shakespeare aussi, dans Shakespeare, on lit beaucoup, c'est vrai. Même dans la tragédie grecque, il y a des moments où on rit, il arrive des sourires ou des rires, oui, absolument.
Donc en fait, toutes les situations que vous présentez, tous vos films ne sont pas en fait des tragédies. Vous voulez au contraire quelque chose de dramatique qui n'exclut pas la comédie. C'est-à-dire que autant la tragédie peut être très plombante, autant là, les situations que vous dessinez ne sont pas des tragédies.
Ce sont des histoires humaines. Et les hommes, ils rient, ils pleurent, ils sont mécontents, ils sont fâchés, ils sont furieux, ils sont satisfaits. Donc c'est ces sentiments-là que doit, en principe, avoir un film. Une histoire qu'on raconte.
Est-ce que vous êtes optimiste ?
Ah oui, je suis raisonnablement optimiste, absolument. Parce que à mon âge, j'ai vu beaucoup de choses. Je suis arrivé en France en 55, et c'est vrai que j'ai vu la France beaucoup changer. Il y a eu des moments dramatiques, des moments faciles, des moments difficiles, des moments... Et le monde aussi, d'ailleurs, parallèlement. Et je m'aperçois que ça va un peu mieux. Pas suffisamment mieux qu'il le faudrait, mais ça va quand même un peu mieux.
Est-ce que vous avez tenté d'adapter vos films à ce monde qui change, justement, que vous ne pouvez pas changer par les films, comme vous l'avez dit, mais est-ce que vous vous dites, quand un film sort en salle, quand vous avez déjà l'idée d'un autre film, de vous dire, ben, en fait, c'est plus tout à fait la même époque, déjà, entre ces deux films.
Le problème que j'ai, je vais vous dire, c'est que quand je fais un film, je n'ai rien en tête. Alors j'attends la première émotion pour faire la première intérêt, l'émotion suivante pour faire le film suivant. Et je pense aussi que beaucoup des films que j'ai fait, on a cité Z, L'Aveu et quelques autres, ils ne peuvent plus se faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ça serait des films historiques du passé, qui ne correspondaient pas à une réalité présente, quotidienne que nous vivons. Voilà, c'est ça aussi l'intérêt qu'ont les films, à mon avis.
Et là maintenant, quels sont pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en scène qui soit à la fois, qui dépasse à la fois l'actualité et qui ne soit pas non plus un film historique? Qu'est-ce qui vous intéresse comme problématique? C'est là, par exemple, si vous avez une idée pour un film, c'est quoi? Comment ça peut, quel serait le sujet qui vous
travaille,
touche?
Je travaille sur un scénario, mais je préfère ne pas en parler. J'ai jamais parlé de scénario sur lequel on travaille parce qu'on ne sait pas d'abord si le film va se faire. Et je pense aussi qu'il faut garder son secret, si je peux me permettre, sa virginité. Comme ça, on regarde, et puis quand le film sera fait, là, on peut en parler.
Alors, à défaut de savoir quelle est votre idée, oui, et ce secret, de percer ce secret, est-ce qu'il y a plus des sujets qui vous touchent en ce moment, plus des images, plus des problématiques, plus des enjeux, en fait, dans le monde, que vous avez absolument envie de mettre en scène, parce que les images vont être fortes pour pouvoir dire ces situations-là?
Non, il y a une préoccupation, je l'exprimais d'une certaine manière, dans Le Capital, qui n'a rien à voir avec Marx, n'est-ce pas? C'est une histoire de banque d'aujourd'hui. C'est le rôle de l'argent dans notre société aujourd'hui. Le rôle de l'argent est immense. Le rôle de l'argent est en train, si elle continue comme cela, est en train de tuer la démocratie. Et de nous rendre chacun pour soi, comme les naufragés. Ils n'essayent pas de voir ce qui se passe autour de lui, ils veulent se sauver. Donc, à mon avis, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, mais je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, ça, pour faire un film, c'est très difficile. Voilà, c'est un thème, à mon avis, essentiel aujourd'hui dans notre monde. Il y a aussi un autre thème qui est formidable, c'est l'Europe, qui ne marche pas comme on le souhaitons tous, comme nous l'avons souhaité, en tout cas ma génération, qui l'a vu naître peu à peu en se disant, voilà, c'est ça qu'il faut faire, et puis ça a été fait, et puis c'est en train de se défaire. C'est enfin d'une manière très dangereuse. Et ça aussi, c'est très inquiétant parce que je pense que l'Europe peut être une union extraordinaire pour affronter les problèmes de ce monde qui devient de plus en plus grand, qui devient de plus mondial, et où d'autres forces, comme la Chine qui est colossale, les Indes, l'Amérique et d'autres qui vont naître, risquent de prendre tout l'espace et l'Europe doit rester unie, à mon avis, pas seulement pour éviter que d'avoir d'autres guerres, mais aussi pour fabriquer des choses, pour faire des choses importantes. Regardez, j'ai un exemple. Les avions. Il y a un certain nombre d'années, il n'y avait pas d'aviation, il n'y avait que les avions américains. Et bien, on a décidé en Europe, à commencer par la France, qu'il fallait que l'Europe ait une industrie d'avions. Et bien, c'est la première au monde, désormais. Et en peu d'années, n'est-ce pas? Donc, il y a des possibilités énormes pour l'Europe si elle reste unie. Si elle s'est désunie, et bien, ça sera chacun pour soi. C'est le naufragé.
Vous soulevez la question, Costa Gavras, ce sera la... Peut-être ma dernière question, la question aussi du lien. Vous parlez de l'union, de la question de l'union aussi et de l'union européenne. Vous montrez à travers vos films tous les liens qui se font entre des pouvoirs, mais aussi des liens qui se font sentimentaux. Vous avez parlé de ce film Conseil de famille. On a aussi parlé de Missing. C'est quand même l'histoire d'un père et de sa belle-fille qui veulent retrouver un être qui leur est cher. Dans Z, on voit toute la famille politique et la femme du député assassiné qui se mobilise. Est-ce que votre cinéma aussi est un film de lien et d'attachement plus sentimental que ce qu'on pourrait penser?
Ah oui, j'essayais de le dire un tout petit peu quand j'ai parlé tout à l'heure de films de, d'autres pays que nous voyons comme les autres pays qui voient nos films. C'est-à-dire, c'est cette espèce, il y a un lien qui s'est créé là, puisqu'on on connaît la façon de vivre des autres, de sentir, d'aimer. Et une autre chose à laquelle on ne pense pas beaucoup, c'est que grâce au cinéma, on a vu les corps, nos corps, nus. Bon, avant, il y avait des peintures avec des nus, etc. Ça appartenait d'ailleurs à des gens qui avaient les moyens. Tandis qu'on a vu que les hommes et les femmes peuvent être nus, et c'est acceptable. Donc, c'est le cinéma qui a permis toute cette espèce de rencontre avec des gens très différents que nous pouvons être entre les Africains, les Asiatiques, les Européens, etc., les Latino-Américains et autres. Donc, c'est ça le qui est essentiel avec le cinéma et, par extension, avec l'audiovisuel. Parce que l'audiovisuel, même quand ça passe par la télévision aussi, peut jouer ce rôle aussi.
Merci beaucoup, Costa Gavras.
C'était la masterclass de Costa Gavras avec Géraldine Mosna-Savoy. Attaché de production, Mathieu Maroudin. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Olivier Guérin.